Je voudrais aujourd'hui finir ou presque finir ce que j'avais à vous dire pour mon compte. Et l'on fera encore deux séances auxquelles ne viendraient que ceux que ça intéresse. Les deux séances en grande partie consacrées aux questions, aux problèmes que vous-même vous avez à poser sur l'ensemble de ce qu'on a fait cette année, pour voir s'il vous paraît question de toutes sortes, enfin, qu'on verrait ensemble, mais il faut que vous ayez quelque chose à... Il faut que vous ayez une réaction immédiate à tout ça. Et puis, l'un d'entre vous nous ferait entendre une œuvre de Boulez, ou plutôt des passages d'une œuvre de Boulez, un pli selon pli, dont on verrait, ou dont on chercherait à voir pourquoi ce titre en apparence étrange. Voilà, c'est pour dire que mon problème aujourd'hui, c'est de tirer les conclusions. Je rappelle les petites fiches vertes, ça devient urgent de me les donner. Bien, la dernière fois, vous vous rappelez, nous avions vu un certain thème concernant les rapports entre les rapports de force, c'est-à-dire les luttes de pouvoir, et les modes de subjectivation. Et dans beaucoup de directions, on tournait autour d'une chose que Foucault avait développée, de plus en plus développée, à la fin de ses travaux, à savoir que les luttes sociales et l'émergence de nouvelles luttes sociales implique, suppose, de nouveaux modes de subjectivation. Ce qui était une manière de confirmer les deux dimensions, dimension du pouvoir et la dimension de la subjectivation telle qu'on la découvrait dans les derniers livres de Foucault. Alors, j'ai demandé aussi à l'un d'entre vous s'il y avait des précisions à apporter, par exemple, au niveau du mouvement italien. Eric a bien voulu s'occuper un peu de ça. Oui, comment tu verrais, toi, le rapport? Non, surtout pas.
Donc ça s'inscrit, disons, du début des années 60. Donc,
expliquons. Donc, année d'études, donc, qu'est-ce qu'il fait
Alors, je crois qu'on peut distinguer trois phases. Une première phase, il s'agissait de centrer l'analyse sur une nouvelle forme de subjectivité. Une deuxième phase, au contraire, ce qui est beaucoup plus important, c'est le nouveau sujet. Et une troisième phase qui correspond à ce que nous avons appelé une ontologie du sujet. On verra peut-être finalement à la suite de quelle difficulté, de quel problème. En tout cas, le point de départ de tout ça, c'est paradoxalement ce à quoi arrive du coup, c'est-à-dire cette idée que la résistance est première. Et c'est ça en fait qui le force, disons, de l'opéralisme à son point de départ. Alors, au début, Gilles m'avait demandé un peu d'essayer de faire un accord avec l'école de Francfort, le cas, etc. Je me sentais comme ça. Et puis, coup de chance, j'ai trouvé une phrase d'un artiste anglais qui était très, très, très en rapport avec les économistes italiens, pratiquement le départ, qui cite bien les choses, et qui s'appelle Edouard Thompson. Voilà ce qu'il écrit. Je crois que c'est un peu à sortir de la détermination d'un sujet ou d'idée déterminée par les idioties continuées de la définition quantitative des classes ou par le marxisme newtonien sophistiqué dans lequel les classes ou leurs sections accomplissent leurs ordres planétaires ou moléculaires. Il a précisé que ça a été écrit avant 60. Cette conclusion imbécile du positivisme sociologique ou de l'idéalisme structural et marxiste est la conséquence de la conviction selon laquelle les classes existent indépendamment des rapports historiques et de la lutte, qu'elles luttent parce qu'elles existent, alors qu'il faudrait dériver leur existence de leur lutte. Donc on voit bien à partir de là qu'il s'agit précisément de partir de la complexité des rapports, de la multiplicité des luttes et des comportements antagonistes. Ce qui, pour les marxistes italiens, je veux dire immédiatement, partir du refus du travail salarié, de la délégation représentative, donc tout le contraire d'un idéalisme, et il s'agit au contraire de s'orienter vers des paradigmes de travail, qui sont ceux-là même d'une nouvelle forme de vie. Donc un nouveau concept de classe comme résultat, et non pas de quelque chose qui est donné, des luttes prolétaires. Ce qui implique évidemment un éclatement de la méthodologie matérialiste, disons traditionnelle, du discours sur la transition, et toute la théorie marxiste des stades et des hommes. Ce qui implique aussi la faillite d'un concept que l'Italien avait appelé la normativité révolutionnaire. Donc, au-delà de Marx, c'est le titre d'un livre de Marx, Marx au-delà de Marx, c'est-à-dire au-delà du marxisme, comme théorie objective de la transition, comme déterminisme de la loi de la nature, et comme méthodologie linéaire du français révolutionnaire. Quelque part, Negri dit, le marxisme est mort, vive le marxisme. Parce que, effectivement, c'est troublé ce philosophe du marxisme demeure jusqu'à la fin, y compris dans l'approche qui se veut beaucoup plus ontologique à travers la dérangée par Spinoza. Alors, j'aimerais vous lire un bout de texte de Negri, je pense qu'il connaît assez bien, le style, la prégnance et le contenu de ses pensées. C'est un peu long. Je crois que ça vaut la peine. Je traduis comme ça, je n'ai pas préparé une traduction, je m'excuse si c'est un peu tapé ou si c'est pas. Que nous soyons devant un véritable casse-tête scientifique, nous l'avons compris depuis longtemps. Phénoménologiquement, la norme de la transition féministe, la norme révolutionnaire exigeait un sujet qui la partagea, mais le sujet révolutionnaire que nous voyons agir n'était pas capable, disons, de la promouvoir ou même de la légitimer. Il ne l'était pas, donc, ce sujet, parce que la structure ontologique de l'être révolutionnaire excluait le rapport avec la norme. La norme était définissable encore seulement dans la théorie de la valeur et du socialisme. La structure réelle n'était pas réductible à cette théorie. Mais il faut aller au-delà de la phénoménologie. En quoi consistait plus exactement, plus analytiquement, ce casse-tête ? Il consistait dans le fait que, en face de la subvention réelle du travail de la part du capital, la logique de l'antagonisme proposait la séparation absolue, la définition de deux totalités sans plus aucune relation entre elles. D'un côté, la totalité de l'État comme ensemble descriptible, toujours plus avec des critères d'inférence systémique. De l'autre, la totalité prolétaire, de son côté, descriptive seulement comme procès d'autovalorisation, comme séparation ontologique, stable et définitive. Au système du pouvoir s'oppose la généalogie de la puissance. La critique pratique de la loi de la valeur portait à cette conséquence. Prise dans l'analyse du quotidien et également dans la relevance de phénomènes universels caractérisent notre époque, ce qui donne fascisme de l'État vers refus versus refus du travail, État comme subvention réelle de la société versus ouvrier social comme protagoniste du désir que vous dites. La loi de la valeur est la loi d'un rapport réel. Quand elle s'applique de moins en moins, parce que toutes les proportions du rapport se mettent en mouvement pour leur propre compte, si, entre parenthèses, si les proportions sont, dans une certaine manière, reproposées, ce qui advient désormais sur la base d'un pur et simple rapport de force, alors se déclare une crise qui n'est plus résolvable de la loi de la valeur. Cette crise est substantielle, dans le sens que les séquences de la valeur sont devenues complètement irrationnelles, et quand je dis irrationnelles, je veux dire simplement non généralisables en fil de pensée, qui soit propre, soit au dominant, soit au dominé, dans l'art de connexion qui soit compréhensible à travers l'information. Nous disons alors que le rapport résiduel de la valeur est simplement monétaire. L'être est monétisé. La conjonction, la connexion occidentale, la nomenclature orientale de l'être social sont les grandes formes de la manière dont se vide, dont sont vidés tout rapport. Donner un nom, une mesure arbitraire à l'être, feindre le contrôle, est l'unique forme de rapport. Ni à l'intérieur de ce vide, ni à l'intérieur de cette déréalisation du rapport, l'insistance sur le pôle social, comme sujet social de l'aliénation et de la production, de la reproduction et du refus, donc n'en subit pas moins la crise. La normativité ne peut et ne sait sur quel côté dépasser le niveau des besoins, atteindre le maximum de la concentration des éléments du refus dans leur simple négativité, atteindre un maintenant du temps, qui devrait être positif, mais est seulement l'accumulation raffinée de toutes les négativités possibles, de toute la négativité possible. Ici, le sabotage, le refus du travail, l'autovalorisation caresse seulement, le désir d'une pleine réalisation communiste. Sur le terrain des institutions, la crise des systèmes politiques complémentaires est de plus en plus évidente et forte. La démocratie est un simulacre byzantin des rapports sociaux d'exploitation. Le socialisme est une brutale idéologie pour la reproduction planifiée et forcée des rapports d'exploitation. En face de ces deux figures, l'unique qualité qui révèle le sujet prolétaire, fait sujet social, c'est l'extranéité, l'extranéita, l'altérité radicale, la diversité des langues. Ici donc, le problème se pose de manière extrême. C'est le marxisme lui-même qui est en crise quand la subvention réelle de la société productive se réalise dans le capital sans déterminer pour autant nécessairement le communisme. Loin de donner la normativité révolutionnaire, réapparaît en revanche l'antagonisme de de la subvention réelle. Toutes les catégories qui ont fonctionné en tant que pied de l'antagonisme à la production de la subvention réelle, maintenant, dans l'ambiance de cette subvention réelle, ne se montrent pas capables ni de décrire le schéma général de la société supprimée, ni d'organiser l'antagonisme. Donc ça paraît assez incompréhensible, et je voudrais essayer de décrypter ça donc à travers ces propos que nous avons dit. Je crois qu'il fallait le lire, et que ça donne quand même une idée de ce qu'il y a à ce propos. Bon, alors, revenons au coup d'État, c'est-à-dire donc à la première phase, au dégagement de nouvelles formes de lutte qui donne véritablement naissance à l'opéralisme, donc à l'ouvriérisme. Je crois qu'il faut rappeler brièvement que dans les années 50, donc très tôt par rapport à ce que on a vu par rapport à ce qu'on suit, il y a eu une très forte crise du syndicalisme en Italie, avec l'apparition déjà d'un radicalisme ouvrier autonome, donc qui échappait aux structures syndicales, avec des luttes spontanées très, très importantes, en particulier dans le Sud, qui étaient caractérisées par une chose, d'une part, par deux choses, d'une part, l'extraordinaire force de circulation qui se propageait extraordinairement rapidement, donc en dehors de toute structure syndicale, d'autre part, ce que les opéralistes ont immédiatement repéré comme une très forte connaissance du cycle politique. Et ces nouvelles formes de lutte se manifestaient essentiellement, bon, évidemment par le blocage de l'usine, par des grèves spontanées, pour l'absentéisme, ça c'est un nouveau comportement sérieux dans la politique et le sabotage. Et donc une très forte mobilisation. Et c'est là où il commence à poser cette idée que l'idéologie de la libération s'est définitivement séparée de la valorisation du travail. Donc la libération ne se fait plus dans le travail, par le travail, comme nous l'avait appris l'idéologie socialiste, communiste, c'est ce qu'ils appelleront une négation spontanée du caractère de force de travail de la classe ouvrière. Alors, dans les années 60, donc en particulier avec Fonti, apparaît cette idée d'une théorie de l'ouvrier masse comme nouveau sujet des luttes ouvrières. Alors, ce terme de nouveau sujet est très ambigu et très paradoxal parce que la base matérielle de ce nouveau sujet, c'est quand même des choses assez anciennes, qui s'appellent le taylorisme, qui s'appellent le fordisme, qui s'appellent les keynésianismes, autrement dit, tout ce que, ici on appelle le welfare state, et qu'ils ont appelé statopian, l'étatement. Sa base subjective, par contre, est donc déterminée par ces nouvelles formes de vue, c'est-à-dire essentiellement les caractéristiques dynamiques, et c'est bien sûr ça qui est important, beaucoup plus donc que la figure elle-même je crois, de l'économie, d'autant plus qu'on va voir, ils ont pensé très vite qu'ils ont été en retard, même sur l'histoire. En tout cas, tous les éléments de l'organisation capitalistique de l'usine société, comme nous dirons, vont être analysés comme produits dans une dialectique entre lutte ouvrière et développement capitaliste. Donc une dialectique dont le centre actif est l'ouvrier masse. À tous les points critiques, à travers le flux continu d'informations fournies par les luttes, s'instaurent des mécanismes toujours plus complexes, toujours plus intégrés, de domination. Autrement dit, donc, l'opéralisme va décomposer le Moloch capitaliste, pour reprendre l'expression de Marx, à partir des séquences des luttes ouvrières où le capital va capter un certain type d'informations et ce qu'ils appellent de coopération sociale, dépasse largement l'organisation primordiale de la chair. Alors, l'une des conséquences théoriques fondamentales, c'est qu'à un certain niveau du développement capitaliste, le concept de force de travail, comme élément du rapport dialectique au levier capital, avec la prévalence de la ratio capitaliste de ce rapport, va se dissoudre et un seul rapport va demeurer, celui du capital et de la classe ouvrière, qui s'est donc d'une certaine manière libéré de son asservissement, de son assujettissement en tant que force de travail. Donc la dialectique du développement capitaliste est dominée dans cette analyse par le rapport de la classe ouvrière qui détermine une polarité indépendante dans le développement capitaliste lui-même. Alors, cette force de travail, il est faux de dire qu'elle disparaît évidemment totalement, simplement ça devient une force de travail que l'on dit politique. Et là, il se réfère au but de prière, au fait que la vie, dans le cadre même du capitalisme, ce qui implique évidemment la régulation de l'État. Et pas simplement donc le commandement de capitalisme sur l'État. Alors, le gros problème, évidemment, on voit bien l'avance sur quelque chose. Parce que la résistance, la première, se voit encore à travers plein de formes, essentiellement dans une forme dialectique. Mais le problème, c'est que le cadre demeure ce qui désigne, alors que, ils vont découvrir un peu plus tard, selon eux, la conscience capitaliste, c'est leur propre terme, répondait déjà en termes sociaux beaucoup plus complexes. C'est-à-dire une domination et le contrôle sur l'art entier du social et de la circulation, et non plus simplement sur la production. Et Negri et quelques autres vont dire que déjà dans le Fordisme, et le Fordisme lui-même récupérait transsubstantiel, le haut niveau de coopération donc, sur les lignes de montage. Donc il récupérait les motivations sociales à l'organisation théorique du travail, et peu à peu, le marché du travail et le tissu des rapports entre production et reproduction intègre la théorie du commandement capitaliste qui tient donc à l'ensemble de la société. Alors, ça les entraîne à dire que la théorie de l'ouvrier Marx était premièrement née en retard et deuxièmement incapable de saisir les nouvelles dimensions du commandement. Et c'est à ce moment-là que les opéraïstes commencent à parler d'usine sociale, simplement que l'idée du tout même, la pesanteur des concepts, du concept l'empêche de devenir réalité pratique. Il y a donc une véritable impuissance de l'ouvrier de Marx. Alors après 68-69, la lutte sociale, ouvrière, étudiante, etc., dans et contre le système du salaire, détermine une crise générale des formes de contrôle. Et la réponse, ce sera toujours plus donc, la diffusion sociale de la production. Et là, Negri explique très bien qu'il fallait liquider l'indépendance théorique du concept d'ouvrier Marx. Alors même que l'émergence de la production du pur conduit qu'elle élargissait considérablement le marché du travail, qualifiait comme ouvrière une série d'activités du travail social qui autrefois étaient tout à fait marginales. Donc c'est en 68-69 qu'on commence à repérer cette nouvelle figure des marginatis, c'est-à-dire donc c'est pas des marginaux, c'est des gens qui étaient jusque-là en dehors donc des presque envie de dire oui, des rapports de production dominants au sens des rapports de production les plus modernes. Bon, c'est le travail au noir par exemple, c'est ce genre de choses. Et ce qui me semble important de marquer tout de suite, c'est que quand ces phénomènes sont apparus, à l'extérieur, on a eu l'impression de choses complètement archaïques. Alors que les Italiens, eux, les artistes italiens, étaient convaincus de la modernité de ces nouvelles formes. Je crois qu'il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, à Silicon Valley, avec la multiplication de ce type de travail, l'utilisation maximale des intérêts à eux, pour bien aussi dire la modernité et la politique. Alors en tout cas, on a une conscience de plus en plus grande de l'interconnexion entre travail politique et reproduction, et donc les les Italiens vont codifier en quelque sorte en disant que l'on parle de la classe ouvrière massifiée dans l'usine, donc dans cette ouvrière de masse, à la force de travail sociale. Ce qui pose évidemment tout un tas de problèmes de composition de classe, qui doit désormais inclure la mobilité du travail à travail comme tendance à l'unification des sujets et des lieux. Et c'est bien ça évidemment qui pose problème, parce que on a l'impression d'une disparité absolue donc des conditions de travail au niveau de... En tout cas, l'ouvrier social, alors je crois qu'il faut presque mettre ouvrier entre parenthèses et souligner vraiment social, une force de travail social, articule désormais sa mobilité essentiellement donc, sur le terrain de la circulation et tout simplement donc, sur celui de l'usine. Bon, donc le plan Marshall, préfigurerait déjà cette figure de l'ouvrier social, et c'est en fait ce qui va fonder toute cette critique de l'ouvrier de masse. Donc toute analyse en termes d'ouvrier de masse était un retard pratique, un retard théorique, qui continue à hanter les années 60 avec la figure de la centralité ouvrière, ce qui donne très concrètement au niveau politique. Un marxisme qui se veut rigoureusement renouvelé, mais enfin, qui reste tout à fait donc, centré sur l'ouvrier masse au sens le plus traditionnel. Entre parenthèses, Lévy avait écrit dans ces années un texte qui s'appelait 33 leçons sur les deux. Donc une partie politique tout à fait rigoureuse. Donc la catégorie de l'ouvrier masse n'a plus aucune indépendance théorique. Nous avons essayé de simplifier en disant qu'elle a simplement correspondu aux exigences de l'homme. Donc dans cette césure entre usine et société, on voit bien donc ce retard énorme par rapport à ce qui nous a produit au même moment. Là, on a parlé de l'école de transport, également en France, pour le bien. Alors, bon, il y avait cette énigmatique expression qui était apparue dans le texte de l'étude donc de subvention réelle qui correspond donc selon les opéraïstes enfin, selon le formule à une véritable analyse de l'être social. Qu'est-ce que c'est exactement que subvention réelle? Donc je crois qu'il faut dire que le texte un peu cardinal sur lequel il se fonde, c'est les Grundrisse de Marx. Et je crois ça finalement dès le départ, dès Tronti, pendant Marx au-delà de Marx, Lévy consacre, je crois, 60 ou 70 pages à un passage très précis des Grundrisse où on montre en quoi la subvention réelle de la société par le capital n'implique pas toute dissolution de l'antagonisme, mais au contraire reproduit une nouvelle figure collective de l'antagonisme. Alors, concrètement, cette subvention réelle, il la définit comment? D'abord par le fait qu'il n'y aurait plus de différence entre travail productif, ce qu'on avait traditionnellement appelé travail improductif, entre plus-value absolue et plus-value relative, ou même d'ailleurs entre production et circulation. Et d'ailleurs, cette tertiarisation de la production, pour donner un terme c'est ni plus ni moins que ce que Marx lui-même déjà appelait la circulation productive. Donc le flux de la valeur aussi bon, devient de plus en plus difficilement déterminable à un niveau étonnant économique, et c'est un peu ce que nous dit Lévy dans ce texte, de manière assez explicite. Donc, que, en fait, le flux de la valeur, ce n'est plus que le flux du commandement, dit-il, articule l'analytique de l'âge en système et manœuvre la réalité systémique selon des fonctions d'auto-réglementation. Autrement dit, donc, tout ça, c'est le fonctionnalisme absolu. Et donc, les temps singuliers d'auto-valorisation, vous avez donc le temps en tant que travail, sabotage, les opérations sociales, etc., sont complètement donc intégré dans cette situation à vivre. Et c'est là que va se reposer le problème de la résistance tout à fait autrement. Puisque, comment, on est un peu revenu, c'est pas au départ, mais tout à fait à une situation qui est un peu stérile. Comment réussir à déterminer le problème de la résistance, non pas comme éternellement seconde, ce qui se pose en ce moment, sans jamais de rapport de pouvoir, mais d'une certaine manière comme première. Et c'est celle qui va indiquer, disons, toute la tentative ontologique pour comprendre le terme qui est de l'esprit et de l'économie. Alors, le paradoxe de la subjonction, selon Néglis, c'est que dans le temps même où l'analytique du commandement cherche à détruire l'autonomie des sujets, au moment où elle intègre de manière leur moment de valorisation, elle le restituerait sous forme et figure collective. Donc une production de collectivité, bien sûr, est réalisée, puisque prise dans les figures de l'analytique, mais exactement. Et c'est cette figure essentielle qui est celle de la socialisation. Et donc il y aurait néanmoins production d'un élément asymétrique dans le procès de production et donc de cette classe. Alors ça se base sur un texte essentiellement des Gombrich, qui est l'un des textes qui marque effectivement dans le plus loin au niveau de la compréhension des mécanismes modernes, au niveau de ce qu'on a appelé la centralisation, mais où, par un espèce de jeu dialectique, il va quand même réussir à retrouver ce qu'on appelle un cerveau collectif qui échappe quand même à ces rapports de pouvoir. C'est un peu la même opération qui est d'abord tentée au niveau de cette politique, et puis ensuite, parce que quand même ça pose quelques problèmes, y compris au niveau social, historique, au contraire, à travers une tentative de constitution ontologique. Donc il y aura néanmoins reproduction générale de l'antagonisme au niveau de la subjonction, grâce donc à un appareillage essentiellement dialectique. Et c'est cette pratique de la dualité qui doit être pensée dans une troisième, dans un troisième moment, dans un troisième temps, donc comme pensée de la constitution. Alors ce qui est également important, je crois, c'est une pensée de la crise assez neuve, puisque la crise devient à ce moment-là la dimension constitutive de la subjonction réelle en tant qu'elle n'étouffe pas tout antagonisme et en tant que la subjonction réelle, au contraire, lui donne donc cette structure collective, donc celle de l'ouvrier social, la forme de travail social. Donc la crise ne peut plus être résolue à travers des synthèses, mais il y a en elle un élément asymétrique tout à fait irréductible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la résistance est peut-être très, très compliquée à penser, et le titre du texte que je vous ai dit tout à l'heure, c'est précisément au-delà de la résistance, donc on parlait tout à l'heure de Haut-Danemark, parcours donc, pour les années 80.
Là, Eric, je crois que tu as montré vraiment l'essentiel, c'est très riche tout ce que tu dis. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose au niveau là, du cerveau collectif sur les modes de subjectivation ou l'équivalent des modes de subjectivation? Et puis on en resterait là parce que c'est exactement ce que je souhaitais sur les luttes et la production d'une nouvelle subjectivité.
Non, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire, c'est que si Néglis parle de quelques autres, parle de Rancicap, de Castel, c'est bien parce que les formes de lutte n'ont pas du tout finalement suivi la manière dont ils ont réussi à fabriquer un nouveau style de mode de subjectivation. Ils se traduisent effectivement par la culture, mais qui ne produisent plus véritablement d'antagonisme. C'est-à-dire, bon, et le texte de Néguet est tout à fait symptomatique à cet égard, on a l'impression d'un écart. Simplement, le rapport de force n'est plus immédiatement vérifiable. Ça a donné, par exemple, toute la dérive de la drogue en Italie, qui a été extraordinairement forte. Je crois que c'est les pays européens où ce problème s'est posé avec le plus d'activité. Et puis, ça a donné, effectivement, des formes de socialité qui reproduisent, finalement, des guettos. C'est ça, le véritable constat. Et s'il y a toute cette dérive en
Oui, mais aujourd'hui, c'est un moment de calme, je comprends. Hein. Je veux dire, l'erreur est de croire que ce moment de calme durera. Eh bien, écoute, merci beaucoup, parce que c'était très riche. Et en effet, c'est important que toute cette histoire du marxisme italien est quand même à côté de l'école de Francfort et déjà comme préfigurée dans le cadre du marxisme, dans les deux cas, et préfigurer ce lien entre nouvelle lutte, nouvelle subjectivité.